au réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine. L'Amérique.
Who doesn't see red states and blue states only sees the United States.
Avec Valérie Beaudoin.
The court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. This is based on your abuse of a position of trust and authority, and also the particular cruelty shown to George Floyd.
L'ex-policier Derek Chauvin devra passer 22 ans et demi derrière les barreaux pour le meurtre de George Floyd. Content de vous retrouver, Valérie Beaudoin. Bonjour.
Bonjour, je serais contente aussi.
Bien oui, Valérie qui a suivi les progrès du Canadien, mais à partir de Vancouver.
Oui, bien écoute, je suis allée quand même dans la région de Carey Price, alors il y avait quand même une fièvre.
Oui, il y a chez Weber qui vient de la...
C'est vrai.
De Sicamous en Colombie-Britannique. Est-ce que les gens de Vancouver vont prendre pour le Canadien? Il semble que tout le Canada soit rallié derrière le Canadien.
J'ai senti qu'il y avait quand même, les gens se disaient, c'est l'équipe canadienne, parce que j'ai pas vu des drapeaux sur les voitures ou autre, mais j'ai vu beaucoup de gens avec des casquettes, avec des chandails, et on mettait vraiment les matchs dans les bars, dans les restaurants. Donc, il y avait quand même un intérêt. Est-ce que ça va aller plus loin? On va voir là, si avec la finale, les gens ont un engouement encore plus développé.
Bon, revenons sur la nouvelle du jour. L'ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, qui a quand même présenté ses sympathies à la famille de George Floyd hier, avant de connaître cette peine qui lui a été réservée, soit 22 ans et demi derrière les barreaux.
Oui, et comme on a entendu le juge, quand il a prononcé la sentence, il a dit c'est 10 ans de plus de ce qui était le minimum, soit 12 ans et demi de prison. Le maximum était 40 ans de prison. Je peux vous dire que la famille, c'est peut-être ce qu'on espérait, mais quand même 22 ans et demi pour Derek Chauvin, qui lui a été, on le sait, hein, directement responsable du décès de George Floyd. Ça a été il y a déjà plus d'un mois dans une décision où on a appris qu'il était reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Donc, quand même, c'est significatif. Je vous laisse entendre d'ailleurs, Paul, tu viens de parler du moment où il a donné ses condoléances. Je vais te faire entendre Derek Chauvin et on s'en parle après.
I want to give my condolences to the Floyd family. There's going to be some other information in the future that would be of interest. And I hope things will give you some peace of mind. Thank you.
Il y a une chose intéressante dans ce qu'il vient de dire. Il y aura éventuellement d'autres informations qui vont filtrer. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement par là, Valérie Beaudoin.
Écoute, on sait qu'il veut faire sûrement appel de la sentence. On le sait déjà qu'il y avait un intérêt à faire appel de la décision. Il y a aussi justement des plaintes au niveau fédéral qui auraient violé les droits civils de George Floyd. Donc, il y a tout ça qui s'en vient. Est-ce que c'est parce qu'il va faire des déclarations dans un autre procès, entre guillemets, pour les violations aux droits civils? Parce que là, ici, on parle de son procès criminel, mais il y a quand même autre chose qui s'en vient pour lui. Mais je trouvais ça aussi assez particulier qu'il disait de nouvelles informations, parce qu'on l'entend offrir ses condoléances, mais on ne l'entend pas dire « je suis désolé ». On ne l'entend pas s'excuser, oui, parce qu'il est quand même responsable, qu'il y ait une raison derrière ce qu'il a fait ou pas, selon sa
justification. Oui, il a été reconnu coupable.
Alors, moi, je trouve que pour la famille, disons, il dit « j'espère que vous allez pouvoir avoir un processus de paix », mais je pense que s'il y avait des excuses, ça veut pas dire qu'il pardonnerait Derek Chauvin, mais je pense que ça aiderait peut-être justement à ce processus-là, s'il reconnaissait, parce qu'écoutez, là, pour les gens qui ont vu Derek Chauvin en cours, le visage ne change pas, hein. L'émotion est toujours à peu près la même.
Hier, la seule émotion qu'il a démontrée, là, une larme, c'est lorsque sa mère est venue au micro, là, c'est-à-dire est venue témoigner d'une certaine façon, parce qu'on permettait aux familles quand même de réagir dans le système de justice américain. Ça, c'est important avant que la peine soit imposée, la sentence. Et c'est le seul moment où il a montré de l'émotion.
Oui, elle a dit que son fils n'était pas un raciste, donc qu'il ne méritait pas finalement d'aller en prison dans les circonstances. Et un autre des moments où je l'ai senti peut-être un peu plus touchée, mais on n'a pas eu de larmes, on n'a pas eu rien de particulier, c'est quand la fille de 7 ans de George Floyd a eu ce témoignage. Donc, j'ai pas mis l'extrait parce qu'on l'entend très difficilement. Là, c'est sur un téléphone qu'on présente, mais elle a dit à son père qu'elle l'aimait, qu'elle s'ennuyait de lui et que si elle le revoyait un jour, elle voudrait jouer avec lui. Donc, elle expliquait que la routine du dodo tout ça, c'est quelque chose qui lui manquait. Donc, ça aussi, c'était extrêmement touchant.
Et autre message très touchant, Terrence Floyd, le frère de la victime, George Floyd, qui, avec insistance, avec de grands moments de pause, de silence, à poser la question « Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère? »
Et c'est la réponse qui est sans question. Hein. C'est la question qui est sans réponse plutôt. Hein, parce que, justement, quand on disait aux gens, il a offert ses condoléances, il n'a pas dit de « je m'excuse », il n'a pas dit de justification, pas « je pensais faire la bonne chose » ou « je ne pensais pas que ça allait le tuer » ou peu importe. Je crois que c'est là qu'il y a un manquement. Est-ce que ça sera dans d'autres processus, un autre processus judiciaire ou autre, où on entendra finalement Derek Chauvin? Il y a aussi le procès des autres policiers qui étaient présents, qui a été remis, lui, en 2020. Ça devait être au mois d'août, donc cet été, et ça sera pas avant 2022, mars 2022 pour être précis. Alors, il y aura aussi cette étape-là qui s'en vient pour la famille.
Alors là, en fin de semaine, ou en fin de ces jours-ci, c'est la parade des politiciens à la frontière du Mexique. La vice-présidente Kamala Harris qui a visité la frontière avec le Mexique, et voilà que Donald Trump s'annonce lui aussi à la frontière cette semaine.
Et Donald Trump, Paul, qui a dit « Si ce n'était pas de moi qui annonçais ma visite à la frontière, Kamala Harris n'y serait jamais allée. » En disant que c'est justement cette pression politique. Mais Kamala Harris s'est défendue de la Maison-Blanche en disant « Non, ça a toujours été le plan. » Mais je vais être un peu d'accord avec Donald Trump sur ce point-là, que ça semble être une décision très politique de la part de Kamala Harris. Parce que si on se rappelle, il y a quoi, 2 semaines, lorsqu'elle était en Amérique latine, elle avait été même irritée lorsqu'on lui avait posé la question en entrevue « Allez-vous y aller à la frontière? » Elle disait « Je suis tannée de me faire poser cette question-là. Je suis pas plus allée en Europe. » Alors, en voulant dire « Je suis pas obligée d'y aller. » Donc, elle avait eu un petit ton d'arrogance, même qu'on l'avait critiqué. Et là, elle se rend sur place. Donc, elle s'est rendue hier. Elle a rencontré des jeunes femmes qui étaient là, des jeunes filles. Elle a rencontré des organismes aussi à la frontière à El Paso, au Texas. Mais on lui a reproché également de ne pas aller justement dans les centres, dans les camps où il y a des enfants. C'est là que c'est controversé, hein? Les enfants qui sont seuls dans une base militaire, entre autres, où ils sont sous des tentes.
Oui, ceux qui ont été séparés des familles, là.
Oui, exactement, ou des enfants qui sont arrivés simplement seuls, que leur famille a décidé de les envoyer en espérant qu'ils puissent se rendre aux États-Unis. Donc, il y avait toute cette notion-là qui était quand même importante. Mais Donald Trump, lui, va s'y rendre mercredi et je peux te dire que je vais suivre ce qui va se passer parce qu'il y va avec Greg Abbott, le gouverneur.
Oui, et ça, c'est un calcul politique de la part de Donald Trump.
Oh oui.
Qui sera très actif dans les prochains mois, les prochaines semaines, dans ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Il va jouer certainement un rôle très actif, Valérie.
Ah oui, parce qu'on le voit, il veut pas quitter la scène politique.
Non.
Il a déjà commencé justement à faire des événements hors de la Floride. Hein. On s'en est parlé ici là, de son premier espèce d'événement à la sauce rallye, là, je vais dire ça comme ça. Mais il va y en avoir d'autres. Et déjà là, qu'il se déplace quand même à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On le sait à quel point c'était le dossier de Donald Trump. Hein,
la fameuse mur.
Ben voilà. Alors ce qu'il dit aussi, c'est que c'est en raison de ce mur qu'on a arrêté de construire qu'il y a tous ces gens et des records qui sont battus de gens qui veulent rentrer illégalement au Canada, mais non, aux États-Unis.
Merci beaucoup, Valérie. Au retour de la pause, on prend encore quelques commentaires sur des anecdotes de déménagement. On en voit de toutes les couleurs, des fois, quand on déménage. Et Evelyne Audet, qui est avec nous au sport, va nous parler, évidemment, non seulement de hockey, mais c'est la deuxième phase à l'Euro, aujourd'hui, au soccer.